Laudetur Jesus Christus.
Journée de deuil et de commémoration hier au Liban. Un an après l'explosion sur le port de Beyrouth, les Libanais ont pleuré leur mort et crié leur colère face à l'impunité de la classe politique. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés. Reportage juste après les titres. En Afghanistan, les talibans promettent de nouvelles attaques ciblées contre Kaboul. Londres a annoncé hier intensifier son programme de relocalisation des traducteurs afghans ayant travaillé pour son armée. Éclairage dans quelques instants. Dans ce journal, nous nous rendrons également en Grèce où de nombreux incendies menacent les populations. Une dizaine de villages sont entourés par les flammes sur l'île de Bé et à Olympie. Et puis dans notre dossier, nous nous intéresserons à la province du Rouzestan en Iran. Elle est frappée depuis plusieurs mois par une sécheresse à l'origine de manifestations dans plusieurs villes. Analyse à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal Hélène Destombes.
Bonjour, tristesse, colère et recueillement hier au Liban, un an après l'explosion sur le port de Beyrouth qui a fait 216 morts. Une minute de silence a été observée et une messe célébrée dans l'enceinte portuaire par le cardinal Béchar Abou Trosraï, le patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient. Ce 4 août, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale libanaise réclamant justice alors que l'enquête sur le drame piétine en raison notamment de l'immunité dont bénéficient les responsables politiques et les hauts fonctionnaires. Des affrontements entre manifestants et policiers près du Parlement ont fait 8 blessés. Le reportage d'Anaïs Renevier.
Ils étaient des milliers dans les rues de Beyrouth pour rendre hommage aux victimes de l'explosion du port. Si les revendications étaient nombreuses, un mot d'ordre pour la plupart des manifestants, s'unir pour réclamer la vérité sur ce drame.
Nous sommes tous ici réunis aujourd'hui en tant que citoyens libanais, qu'importe notre religion, d'où l'on vient. Il y a un an, nous avons vécu un cauchemar et c'était une année vraiment difficile pour nous tous. Il n'y a toujours pas eu de justice, on ne connaît toujours pas la vérité.
À plusieurs reprises, ils ont applaudi les héros de cette tragédie, les soignants et aussi les pompiers, en première ligne alors qu'ils essayaient d'éteindre l'incendie dans le port. À 18h07, heure de l'explosion, le silence s'est fait en face du port. Une messe a été célébrée, puis le deuil, la tristesse se sont muets en colère. Certains allaient même jusqu'à réclamer la mort des dirigeants libanais.
J'étais exactement là l'année dernière. Ils ont essayé de me tuer, j'ai le droit de me protéger aussi. Ce serait de l'autodéfense.
Des heurts se sont poursuivis entre forces de l'ordre et manifestants jusqu'à tard dans la nuit. Anaïs Renevier à Beyrouth pour Radio Vatican.
Le pape François, lors de l'audience générale hier, a exhorté la communauté internationale à aider le pays du Cèdre à se reconstruire avec des gestes concrets, souhaitant que la rencontre internationale de soutien à la population libanaise, organisée hier par la France et les Nations Unies, soit fructueuse. Les participants ont promis une aide de quelque 370 millions de dollars. Monseigneur Wachowski, sous-secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, est intervenu lors de cette conférence virtuelle. Il a interpellé ceux qui sont au pouvoir afin qu'ils choisissent enfin d'œuvrer pour une paix véritable et non selon leurs propres intérêts. Toutes les précisions sont à retrouver à l'adresse vaticannews.va. Aucune accalmie en Afghanistan. Après avoir revendiqué l'attentat de Kaboul, les talibans ont annoncé de nouvelles attaques contre des responsables du gouvernement afghan. C'est dans ce contexte que le gouvernement britannique s'est engagé à relocaliser au Royaume-Uni 500 traducteurs et autres employés afghans supplémentaires ayant travaillé pour son armée, soit 2500 personnes en comptant leurs familles. À Londres, Jean Jaffray.
1400 employés et leurs familles ont déjà été acheminés vers le Royaume-Uni, doublant le nombre de personnes concernées depuis 2014. Le ministre de la Défense, Ben Wallace, et la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, ont souligné dans un communiqué, je cite, « l'énorme dette de gratitude à l'égard des interprètes locaux et autres personnels qui ont travaillé pour les troupes britanniques stationnées principalement dans la province d'Helmand ». Ce programme restera ouvert indéfiniment à tous ceux qui sont éligibles. Il n'y aura ni quota ni limite sur le nombre total, assurent les deux ministres. Par ailleurs, les grands médias demandent au Premier ministre Boris Johnson de suivre l'exemple du président américain Joe Biden et de mettre en place un programme spécial de visa pour la centaine d'Afghans qui ont joué un rôle vital en informant le public sur les combats et le rôle de l'armée britannique ces 20 dernières années. Si on les abandonne, affirment les auteurs de la lettre, ils risquent d'être persécutés, d'être torturés et tués par les talibans, chassés du pouvoir en 2001 et qui ont lancé une offensive depuis l'annonce du départ des forces américaines de l'Afghanistan. Long Jean Jaffré, Radio Vatican.
Au Bélarus, ouverture hier du procès de l'une des grandes figures de la contestation, Maria Kolesnikova, accusée d'avoir voulu renverser le régime du président Alexandre Loukachenko. Elle encourt jusqu'à 12 ans de prison. La Grèce, qui connaît une importante vague de chaleur avec des températures avoisinant les 45 degrés, est ravagée par des incendies. Une dizaine de villages et un monastère sont menacés par les flammes sur l'île de Bé à 200 km de la capitale. On fait le point avec Alexia Kefalas.
Alors que le nuage de fumée noire qui planait sur Athènes commence à s'estomper et que l'air devient plus respirable, les pompiers grecs restent en état d'alerte dans le reste du pays. Des milliers d'hectares de forêt ont brûlé toute la nuit au nord de l'île de Bé, mais aussi à Olympie. Le site archéologique antique d'Olympie d'ailleurs, et surtout l'académie et le musée ont été menacés toute la nuit. Des habitations ont été évacuées alors que les flammes sont toujours menaçantes sur l'île de Rhodes, près des zones touristiques. Les températures caniculaires planent toujours avec 43 degrés ce matin, alors que des vents violents grondent. Les coupures d'électricité sont fréquentes, la crise économique de ces 10 dernières années n'ayant pas favorisé la modernisation du système. Selon Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, le plus difficile est à venir. Les autorités grecques font appel à la vigilance de la population, mais aussi des touristes, et ce jusqu'à lundi. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
La Turquie fait elle aussi face à de nombreux incendies. Ils ont fait 8 morts. Les flammes entourent une centrale thermique près de la ville de Milas, dans le sud du pays, qui a dû être évacuée. L'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, Hieronymos, ainsi que le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, ont exprimé leur profonde inquiétude face à ces incendies dévastateurs. Ils pointent les causes profondes de ces catastrophes, le non-respect de la création et l'avidité des hommes. Le conflit dans le Tigré risque d'enflammer l'Éthiopie tout entière si les rebelles ne se retirent pas des régions d'Amara et Afar, où la famine menace des centaines de milliers de personnes. L'appel est lancé par la directrice de l'Agence américaine d'aide internationale. Samantha Power déplore par ailleurs les entraves à l'aide humanitaire. Seuls 10% de cette aide a pu arriver le mois dernier aux populations du Tigré. Les précisions de Jean-Charles Puzolu.
Le conflit qui oppose gouvernement éthiopien et forces du Front populaire de libération du Tigré depuis novembre ajoute à l'aspect militaire une pression humanitaire et déborde sur une guerre de communication. Sur ce dernier point, le gouvernement d'Addis Abeba a accusé deux ONG, la branche hollandaise de Médecins sans frontières et le Conseil norvégien pour les réfugiés, de faire de la désinformation sur les réseaux sociaux et ordonner la suspension de leurs activités pour une durée de 3 mois. MSF avait dénoncé des exécutions extrajudiciaires et l'association norvégienne avait pour sa part pointé du doigt les blocages des convois humanitaires. Un blocage qui complique la grave crise qui sévit au Tigré où 5,2 millions de personnes, soit 90% de la population, dépendent de l'aide humanitaire selon des données fournies par les Nations Unies. L'agence américaine d'aide internationale a fait les comptes. Entre le 15 juillet et le 2 août, sur 1500 camions d'aide humanitaire destinés au Tigré, seuls 153 ont pu franchir les lignes et atteindre leur objectif. Si le gouvernement éthiopien a effectivement décrété un cessez-le-feu pour faciliter l'acheminement de l'aide, les rebelles ont, eux, poursuivi l'offensive, d'où l'impasse et l'appel de l'agence américaine au retrait des forces tigréennes des régions d'Amara et Afar.
Jean-Charles Puzolu. Au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar a été destitué de la présidence de son parti ainsi que de sa branche armée. L'ancien chef rebelle est accusé d'avoir considérablement affaibli le poids du mouvement au sein du gouvernement de coalition formé en février 2020 dont il fait partie. Cette décision a été prise au terme d'une réunion de 3 jours entre des dirigeants du parti et sa branche armée. La France a été condamnée hier à payer 10 millions d'euros pour ne pas avoir renforcé suffisamment son dispositif contre la pollution de l'air. Une décision historique pour plusieurs ONG dans une affaire emblématique d'un fléau qui fait 40 000 morts par an dans le pays. Dans notre dossier ce matin, direction l'Iran, c'est aujourd'hui que le nouveau président Ebrahim Raïssi prêtera serment devant le Parlement. Le dirigeant conservateur devra faire face à un dossier brûlant, celui de la colère qui monte dans la région du Rouzestan, une province du sud-ouest du pays proche de la frontière irakienne, touchée par une sévère sécheresse depuis le mois de mars. En colère contre l'incapacité du pouvoir central à lui fournir de l'eau potable, la population se soulève. 3 personnes sont mortes en marge des manifestations depuis le printemps. Cette région était pourtant auparavant le grenier du pays, mais devient désormais aride et inexploitable, invivable pour la population. Comment expliquer cette évolution? L'analyse de Marnaz Shirali, politologue et sociologue spécialiste de l'Iran.
La région de Khuzestan est située au sud-ouest du pays. Mais c'est la région qui est quand même mieux dotée des eaux claires. Il y a des rivières importantes de ce pays qui traversent cette région. Donc la région est verte, contrairement au reste du pays. Mais le problème vient du fait qu'ils ont surexploité les rivières de ce pays et de cette région en construisant des barrages hydrauliques sur les rivières, qui était complètement inutile, parce que dans un pays où il y a autant de soleil, quand vous créez des barrages, l'eau s'évapore, donc ce n'est pas une très bonne idée. Mais ils ont construit 650 barrages hydrauliques dans cette région. On se demande comment on peut faire autant d'erreurs les unes après les autres si ce n'est pas exprès, si ce n'était pas vraiment un projet de détruire cette région. Parce que les sous-sols de la région sont riches de pétrole et il est plus facile d'extraire du pétrole sur un sol sec que sur un sol marécageux.
Quels sont les effets concrets sur la terre et sur la population du Rouzestan de cette politique de multiplication des barrages?
Ça a créé beaucoup de mécontentement parce que les barrages d'eau qu'ils ont construits étaient sur les sols salés aussi. Et donc, le sel est entré dans l'eau. L'eau des rivières sont devenues salées et ça a asséché les terres cultivées. Et ça a asséché les grands palmiers de la région, ça a asséché toute la culture de la région. Les troupes sont mortes parce que les animaux domestiques ne peuvent pas boire, vous le savez très bien, de l'eau salée. Et les élevateurs et les agriculteurs, ils ont perdu aussi bien leur culture que leur troupeau. Et l'ampleur du dégât est telle et la répétition des erreurs est telle qu'on est arrivé aujourd'hui, les habitants de Khuzestan, ils sont arrivés à la conclusion que la République islamique a fait exprès pour créer l'émigration forcée de la région, c'est-à-dire pour vider la région de sa population et de les envoyer vers les autres régions du pays.
Dans les manifestations, beaucoup de personnes dénoncent cette mafia des barrages. À qui cela fait-il référence?
Il parle des Pashtun, l'armée révolutionnaire. Vous savez, après la guerre Iran-Irak, l'armée révolutionnaire, les soldats et les généraux de l'armée révolutionnaire se sont investis dans les politiques économiques du pays. Donc, ils ont mis la main sur les ressources naturelles et ils ont commencé à s'enrichir. La quasi-totalité de ces barrages ont été construits avec les soi-disant ingénieurs des Pashtuns. Et donc, ils ont construit des barrages comme ça et ils ont extorqué beaucoup d'argent de l'État. Ils se sont enrichis. Donc, quand les gens parlent de la mafia des constructeurs de barrages hydrauliques, ils parlent des généraux de Pashtuns.
Le nouveau président iranien, Ebrahim Raïssi, vient d'être investi. Qu'est-ce que cela peut changer pour le Rouzestan?
Je pense que l'arrivée de Raïssi va radicaliser la situation. C'était l'un des membres de commission de la mort. C'est quelqu'un de particulièrement violent. Je pense qu'une fois qu'il sera au pouvoir, il ne va pas laisser que les habitants manifestent comme ça. Il va massacrer les habitants de Rouzestan. Ça, on peut attendre. Je pense qu'on est à la veille d'un grand massacre.
Voilà, c'était l'analyse de Marnaz Shirali, politologue et sociologue spécialiste de l'Iran, sur la sécheresse qui sévit dans la région du Rouzestan. Elle était interrogée par Marine Henriot et était l'invitée du dossier de la rédaction de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos journaux en podcast à l'adresse vaticannews.va. Je vous donne rendez-vous à 13h pour un prochain point sur l'actualité internationale, religieuse et du Vatican en français. Très belle matinée, au revoir.